OK, on va commencer notre septième leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Je conseillerais à ceux qui n'ont pas suivi cette série-là, de soit que vous me demandiez que je vous donne une copie de tout ce qui a été fait depuis le début, ou soit que vous alliez sur le site web et que vous téléchargiez les documents. Parce que c'est une série qui est très importante. Rappelons-nous que le Seigneur a dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Alors, la sanctification, ce n'est pas un sujet à prendre ou à laisser. C'est une obligation. Le Seigneur nous demande encore, faut-il savoir qu'est-ce que c'est exactement. Alors, c'est ce qu'on a cherché à connaître depuis les six premières leçons. Ce soir, on va continuer avec le sujet de la sanctification pratique. Le fait que les Écritures nous enseignent que dans la sanctification, il doit y avoir de la croissance. Alors, il y a beaucoup de versets qui nous parlent qu'il doit y avoir de la croissance et il faut tenir compte de ce que les Écritures disent. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, nous dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. » Donc, la croissance dans la grâce, dans la sanctification, c'est une partie essentielle de la vie chrétienne. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui la comprennent mal, qui la réduisent ou qui la négligent pour toutes sortes de raisons. On ne rentrera pas dans les détails de tout cela. Mais ce qu'on veut faire ce soir, c'est de regarder trois choses, trois affirmations. La réalité de la croissance spirituelle, on va regarder des versets, on va regarder comme le deuxième point, les marques de la croissance spirituelle. Quand on croit, il y a des marques. Une marque, c'est quelque chose qu'on voit. Et la troisième point qu'on va regarder, c'est les moyens de la croissance spirituelle. Autrement dit, si on veut croître, il faut utiliser les moyens que le Seigneur nous a laissés, sinon, ben, on demeure des bébés. Et le Seigneur ne veut pas qu'on demeure des bébés, on se pourrait grandir. Malheureusement, souvent j'ai entendu ça, et souvent je l'ai constaté, que des fois dans la vie chrétienne, il y en a qui restent des bébés longtemps. Et ils ne devraient pas. Alors, la sanctification, je dirais que c'est en réalité le principal indicateur de l'authenticité du salut de quelqu'un. Si tu regardes une personne vivre, ça fait disons 10, 15, 20 ans qu'elle est sauvée, et que tu ne vois pas de marques visibles de sa sanctification dans sa vie, c'est un très, très mauvais signe. Parce que les Écritures nous disent qu'il devrait y avoir de la croissance. Alors, faut se rappeler qu'il y a des gens qui nient ou comprennent très mal qu'est-ce que c'est la croissance spirituelle. Et faut pas oublier qu'on vit dans un monde déchu, que l'être humain, même régénéré, a encore assez de mal en lui, dans sa vieille nature, pour être capable de dénaturer des doctrines aussi importantes que celles de la sanctification. Alors, la première chose qu'on va regarder dans le premier point, la réalité de la croissance spirituelle, c'est ce que la croissance spirituelle n'est pas. On va commencer par le côté négatif, après ça, on va regarder le côté positif. Alors, la croissance spirituelle, on ne peut pas croître en sécurité, dans le sens de la sécurité de notre salut. Le salut, ou on l'a, ou on ne l'a pas. Tantôt, on parlait de personnes qui étaient venues au Seigneur, qui, tôt ou tard, abandonnent pour toutes sortes de raisons. Il y a deux raisons possibles. Ils peuvent s'être éloignés, s'être refroidis, ou peut-être tout simplement qu'ils sont venus et ont entendu la parole, mais qu'ils n'étaient pas véritablement régénérés et qu'ils sont retournés dans le monde. Ils n'ont jamais vraiment reçu la grâce et la lumière de Dieu. Donc, on ne peut pas croire dans la sécurité du salut. On ne peut pas croire non plus en acceptation par Dieu, parce qu'on est pleinement accepté. On ne peut pas être plus accepté qu'on l'est là. Alors ça, c'est des choses que la sanctification, ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas croire en sécurité, ce n'est pas croire en acceptation par Dieu. On ne peut pas être plus justifié. Ou on est justifié, ou on ne l'est pas. Si on l'est, on ne peut pas être plus justifié. On est pleinement justifié ou on ne l'est pas du tout. On ne peut pas non plus être plus pardonné. parce que le salut, par définition, c'est le pardon de tous nos péchés, passés, présents et à venir. Donc, à quelque part, si tu as reçu le pardon, tu ne peux pas être plus pardonné. C'est pas non plus être plus en paix avec le Seigneur. Il peut y avoir une perte de communion avec le Seigneur, mais la paix que le salut nous amène, il ne peut pas y avoir de croissance là-dedans. Donc, on regarde qu'est-ce que c'est pas, pour commencer. Ensuite, on va regarder ce qu'est la croissance spirituelle. Donc, il peut y avoir de la croissance dans, en degré, en force, en vigueur, dans les grâces que le Saint-Esprit a plantées dans le cœur du croyant. Ces grâces-là admettent de la croissance, du progrès et de l'augmentation. On va regarder un petit peu tantôt qu'est-ce que... Alors, on peut avoir la repentance. On va regarder les points sur lesquels il peut y avoir une augmentation. Donc, il y a la repentance, il y a la foi, il y a l'amour. On aime. Tu sais, souvent, on entend plus qu'hier, moins que demain, mais c'est vrai qu'un chrétien, ça devrait être ça. Ça devrait être plus... On devrait aimer plus qu'on aimait hier et moins que demain. On est toujours en Et donc, la foi, l'amour, l'humilité. Normalement, après quelques années de vie chrétienne, le Seigneur permet qu'on se connaisse de plus en plus, de mieux en mieux, et que quelque part, ça nous amène de l'humilité. On sait qui on est véritablement devant le Seigneur, et là-dedans, il peut y avoir de la croissance. Il peut y en avoir aussi dans le zèle. Autrement dit, ça peut arriver qu'au début... Souvent, on voit les choses inverses. Hein. Au début, souvent, les gens sont très zélés, puis avec le temps, le zèle diminue. Mais c'est pas normal. On se devrait de plutôt avoir un zèle qui augmente, qui s'intensifie avec le temps. Et il y a le courage aussi. Et il y a d'autres choses semblables, on pourrait allonger la liste. Donc, il y a des choses, on peut grandir dans des choses petites, peut grandir dans des choses différentes, mais il devrait y avoir toujours un sens du péché, par exemple, plus profond. Ça, il peut y avoir un sens du péché. Moi, si je regarde ma vie au début de ma vie chrétienne avec la vie d'aujourd'hui, aujourd'hui, je vois mon péché beaucoup plus que je le voyais à l'époque. Parce qu'à l'époque, dès que tu as fini tes gros péchés grossiers, là, t'as enlevé les grosses affaires que tout le monde voyait, que tu étais un scandale pour plein de personnes, on dirait que quand ça c'est parti, tu penses quasiment que tu es... Mais c'est pas trop long que quand tu t'examines toi-même, tu vois qu'il y a encore plein de colère, il y a encore plein d'affaires, plein de péchés de toutes sortes de nature. Et plus on vieillit dans la foi, plus ça devient, le sens du péché devient plus profond. La foi augmente, devient plus forte. L'amour devient plus expressif aussi. Et c'est pas toujours l'amour, c'est pas toujours quelque chose qui est visible aux yeux des autres. Souvent, on peut faire une multitude de gestes d'amour qui n'est pas nécessairement visible par les autres, mais que le Seigneur, lui, il les voit. Et ce qui augmente aussi, c'est l'intérêt pour tout ce qui touche les choses spirituelles. La prière, la lecture des Écritures, la lecture de toutes les œuvres qui concernent le Christ, qui concernent Dieu. Alors, on va regarder toute une série de versets pour montrer que la réalité de la croissance spirituelle, c'est quelque chose, les Écritures parlent énormément. Et l'auteur, je vous avais déjà mentionné, ce qui était ici depuis le début, c'est J.C. Ryle, un anglican, mais un anglican qui appelle Low Church en Angleterre, qui était une personne reconnue. Tout le monde qui connaît J.C. Ryle, ils disent que c'est le top des tops sur la sanctification. Sur ce sujet-là, là, il est dur à côté, comme on dit. Alors, J.C. Ryle donne énormément de versets. Moi, je me sers de son matériel, mais je ne peux pas amener tous les versets qu'il mentionne parce que, je vous le dis, il est très scripturaire. Quand il avance une idée, c'est backé par les Écritures. Alors, on va aller regarder beaucoup de versets. On va en regarder quelques-uns, mais pas tous, qui concernent la sanctification, la croissance dans la sanctification. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. La charité, c'est l'amour. Pour qu'elle abonde de plus en plus, ça implique une croissance. Et quand on parle que la foi fait de grands progrès, ça veut dire que quand on fait du progrès, on est meilleur qu'on était avant et on continue d'avancer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, verset 9 et 10. Pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y exceller de plus en plus. Alors, c'est vraiment, il y a plein de versets. On en regarde un autre, Colossiens 1, chapitre 10. « De telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » Quelqu'un qui fait 30 ans qu'il est sauvé, il devrait en connaître plus sur le Seigneur qu'un bébé dans la foi. Mais c'est surprenant parfois de regarder dans les assemblées, quand on a un peu d'expérience, de voir que, tantôt je disais qu'il y avait des bébés dans la foi, qui restent bébés longtemps, c'est malheureux. On devrait avoir honte de ça. Parce que quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est chrétien, notre connaissance des Écritures, Paul le dit dans le livre d'Hébreux, qu'il y en a qui sont comme des bébés, puis qu'il n'est pas très content d'eux autres là, non plus. Il ne donne pas une petite tape dans le dos. Là. Éphésiens, chapitre 4, verset 15, « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. » Un autre, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire au Seigneur, vous le fassiez toujours plus. » Plaire au Seigneur, c'est quelque chose, mais le faire toujours plus, c'est une autre affaire. Alors, ça implique vraiment de la croissance. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. « Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. » Alors, l'idée de la croissance, il y en a plein des versets dans le Nouveau Testament. Il y en a même dans l'Ancien Testament. Alors, quelque part, c'est pas quelque chose de dire « Ah, ben là, moi, je grandis pas, pas grave. » Si tu grandis pas, c'est très grave. Alors, ça peut être une occasion pour nous de se poser la question « Croissons-nous? » Est-ce qu'on croit? Est-ce que les autres, juste à regarder de la manière dont on vit, notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir, est-ce qu'ils peuvent voir qu'il y a une œuvre, qu'on a changé? Souvent, quand moi, je me souviens certaines personnes que j'ai connues avant leur salut, qui étaient, ils faisaient, comme on dit en québécois, ils faisaient dur. Et maintenant, on voit, ils ne parlent plus pareil, ils n'agissent plus pareil. Donc, on voit que Dieu a fait une œuvre de grâce dans leur cœur, qu'il y a des choses qui sont changées et qui continuent de changer. Hébreux 13, verset 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance, et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Jean 15, verset 1 et verset 8. Le Seigneur dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Et dans le verset 8, il dit, « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Il ne faut pas oublier que dans la croissance, on va avoir des comptes à rendre devant Dieu lui-même, individuellement, de notre croissance. Et si on n'a pas utilisé les moyens, à quelque part, on est coupable de ça. Et à quelque part, on se devrait de faire des efforts et de demander au Seigneur là pour nous montrer nos faiblesses et nous montrer là où on peut demander. Parce que moi, je trouve que la réponse est souvent dans la prière, de demander au Seigneur de nous éclairer, de nous guider. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est les marques de la croissance spirituelle. Une des marques, on l'avait mentionné tantôt, c'est une humilité augmentée. Connaître notre corruption. C'est... Quelque part, je vais vous en raconter une. Je la trouvais tellement bonne. À un moment donné, j'écoutais la radio un samedi matin à Radio-Canada. Puis le gars, il dit, c'est un juif qui assistait au procès d'un Allemand qui avait travaillé dans des camps de concentration puis qui avait été vraiment méchant, mais pas méchant à peu près. Et il assistait à ça, puis il écoutait toutes les actions que cet homme-là avait faites de très, très méchantes. Et il se met à pleurer comme un enfant. Et il pleurait, il pleurait. Et quelqu'un qui est venu le voir, il a dit, « Ça doit être dur, hein, monsieur, d'entendre toutes ces horreurs-là qu'on a faites à votre peuple, à votre famille, à vos amis. » Il dit, « Je pleure pas pour ça. » Il dit, « Je pleure parce que je sais que j'aurais été capable de faire ce que lui a fait. » Ça, c'est de l'humilité. Autrement dit, c'est facile de voir la corruption des autres, c'est facile de voir la dépravation d'un autre, mais de voir la sienne, ça, c'est une autre affaire. Alors, quand tu vois la tienne, c'est parce qu'il voyait que s'il avait été placé dans des circonstances similaires, il aurait probablement peut-être fait la même chose que lui. Alors, c'est ça qui le faisait pleurer, c'est ça plus de voir sa propre, que par la corruption d'un autre, le Seigneur se servait de ça pour lui montrer sa propre corruption. Et notre humilité devrait augmenter de façon proportionnelle au nombre d'années de notre vie chrétienne. Autrement dit, plus ça fait longtemps que tu es chrétien, plus tu devrais te rendre compte de qui tu es. Je ne sais pas si le Seigneur a fait ça dans votre vie, là, mais moi, je peux vous garantir une chose, il l'a fait dans la mienne, en tout cas. Parce que plus je grandis dans la foi, puis plus ça fait longtemps que je suis dans la foi, plus je la vois, ma corruption, puis plus que si j'avais un bouton pour dire, oh, va-t'en, ou ben non, arracher quelque chose, qu'elle s'en aille, je le ferais instantanément. Mais on n'est pas capable, elle est en nous. La vieille nature, comment qu'on voudra s'en débarrasser, on ne s'en débarrassera pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est de la dominer. Dominer notre vieille nature et s'en débarrasser, c'est deux choses complètement différentes. Je ne peux pas m'en débarrasser, mais je peux la dominer. Alors, j'ai choisi plusieurs noms des Écritures où il utilise une phrase, des grands noms des Écritures qu'on connaît tous, où il utilise une phrase pour parler d'eux-mêmes. Job disait, « Je suis trop peu de choses. » Job 40, verset 4. Abraham disait, « Bien que je ne sois que cendre et poussière, après avoir reçu des choses du Seigneur. » Jacob disait, « Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » David disait, « Je suis un ver. » Je me souviens, j'étais dans une assemblée, j'étais à Lenoxville dans le temps, puis il y avait quelqu'un qui avait emmené ce verset-là, puis il y avait quelqu'un que ça l'avait choqué. Hein, un ver, on n'est pas des vers. » C'est une expression qui veut dire je me sens petit face au Seigneur. Je me sens insignifiant face au Seigneur. Alors, David disait, je suis un ver. Psaume 22, verset 6. Isaïe, quand il s'est présenté puis qu'il a vu la gloire de Dieu dans Isaïe 6, le passage où il dit, les anges cachent la face, les pieds, il a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Après ça, Pierre a dit au Seigneur, je suis un pécheur. Et Paul lui a dit, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce. Quand on connaît la vie de Paul, il se percevait lui-même comme étant le plus petit dans l'ensemble de toutes les responsabilités que le Seigneur lui a données. Et on est porté à penser, oh, mais là, il exagère avec tout ce qu'il a fait. Non, il n'exagérait pas. Il se voyait tel qu'il était et il disait, je suis le plus... Il avait tué des saints. Et pour lui, c'était un péché énorme, même si Seigneur, il savait que le Seigneur lui avait pardonné. Il se voyait à cause de cela, et probablement à cause d'une perception beaucoup plus précise de sa corruption, il se voyait comme le dernier. Hey, c'est pas des farces, là. Il y avait du monde, des chrétiens. Il y avait des chrétiens à cette époque-là, dans cette région-là. Il se percevait comme étant le dernier, le plus petit. Alors, ça nous démontre une chose, que plus tu te connais, plus ça fait longtemps que tu appartiens au Seigneur, plus le Seigneur t'a donné de la lumière, plus il t'a donné de l'instruction, plus tu te vois tel que t'es. Et Paul aussi avait dit une autre phrase, il dit, « Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Le premier. Le dernier, puis le premier. Il se voyait comme... les marques de la croissance spirituelle, une humilité augmentée. Deuxième chose, une foi... et un amour envers Jésus-Christ augmenté. Normalement, quand on est nouveau chrétien, des fois, il y a certaines choses de foi. Des plus vieux chrétiens vont faire des choses et on va être en admiration envers eux parce qu'ils ont une foi terrible. Il y a du monde que peu importe ce qui leur arrive, ils ont toujours confiance que Dieu est au contrôle. Et on les regarde, ils gardent leur paix, peu importe ce qui leur arrive. Ils ont une paix qui se dégage d'eux, donc parfois on les envie. Mais ça se développe. La foi se développe et l'amour pour Jésus-Christ se développe aussi. Je peux vous garantir une chose. Moi, j'ai été quelques années à Québec. Je suis allé faire de la prédication dans la rue. Quelqu'un m'aurait dit ça, là. Moi, là, j'étais un homme timide. Je suis encore, d'ailleurs. Mais, je veux dire, aller prêcher dans la rue, j'ai fait ça pendant 5 ans, tous les vendredis soirs. Quelqu'un m'aurait dit que tu étais capable d'aller faire ça dans les bas-fonds de Québec, dans les quartiers les plus... Mais c'est le Seigneur qui me donnait la force. Il y a des vendredis soirs, je tremblais dans mes culottes, j'y allais pareil. Mais je sais que si j'étais capable d'y aller, la grâce venait de lui. Alors, on sait, on se rapproche de Dieu, et on sait que notre amour envers lui augmente, et on comprend certains principes que le Seigneur veut nous dire dans les Écritures, comme quand il nous dit que c'est pas possible de le servir sans souffrir. C'est pas possible, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Des fois, on pense qu'on comprend ce qu'il dit. Mais pas sûr qu'on comprend tant que ça. Parce qu'il dit, regardez de quelle façon les gens m'ont traité lorsque je suis venu sur la terre et j'étais un Dieu incarné dans une chair d'homme. Il n'avait jamais fait de mal à qui que ce soit, d'aucune forme, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Il n'avait fait aucune omission envers son Père, aucune faute de quelque nature que ce soit. Regardez le traitement qu'on lui a fait. Il dit, pensez pas que vous êtes différent, que vous allez être mieux que moi, que vous allez être traité vous mieux que moi. Vous allez subir le même traitement que moi. Alors, quelque part, il faut s'enlever, des fois, nos illusions. De penser que de servir le Seigneur, que de parler du Seigneur autour de nous, que ça va nous emmener des tapes dans le dos et des félicitations. Ça va nous emmener de la haine, ça va nous emmener du rejet, ça va nous emmener de la persécution et bien d'autres choses. On avait déjà fait une série à la maison, j'ai reçu des bulletins d'une association qui fait le tour de tous les pays du monde où il y a de la persécution. Puis il y avait 50 pays sur la Terre où on faisait une persécution vraiment très sévère. 50, là. La plupart, c'est des pays soit musulmans, soit en Afrique, des pays animistes qu'on appelle. Et il y en avait d'autres, c'était des pays communistes ou des ex-pays communistes. Le sort qu'on fait aux chrétiens dans ces parties du monde-là, c'est incroyable. Puis, ce que j'ai remarqué, j'ai lu un livre, il m'a dit, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de Willem Brandt. Je pense que c'est un Polonais, je ne me trompe pas. C'est lui qui a fait ça, The Voice of the Martyrs, c'est comme un bulletin qu'il publie. Et là-dedans, il raconte sa vie. Il a parlé du Seigneur dans le temps des communistes, dans le temps que le communiste prenait le pouvoir en Europe. Il était emprisonné. Il était torturé. On a emprisonné son épouse. On lui a fait croire qu'elle était morte. Il n'y a rien qu'on lui a pas fait. Et il raconte tout ça en détail dans son petit livre. Si ça les intéresse, vous me le demandez, je le lis en français. C'est très intéressant. Moi, ce que je trouve le plus bizarre, parce que je trouve ça bizarre, les personnes qui ont souffert le plus pour le Christ, qui ont été les plus maltraitées pour le Christ, c'est ceux-là qui ont la foi la plus forte. Une fois, là, ils sortaient de prison. Tu as fait 2-3 ans dans une prison, dans un pays communiste. Tu n'es pas dans une prison ici avec... comme ici, là, ça n'a rien à voir. Là. Oubliez ça, là. Dans un pays communiste dans les années 40, quand tu te faisais mettre en dedans parce que tu étais un chrétien, pour eux, tu étais un ennemi du communisme et tu avais le pire traitement que tu n'étais pas fait. Des fois, il faisait 2-3 ans. Et des fois, la nuit, il se prêchait à lui-même pour venir fou. Ils ont traversé. Et quand ils sortaient, tu te rapportais à dire, ben là, il a compris, il va se la fermer, la trappe. Ils sortaient, ils parlaient encore plus du Seigneur. Alors, il y a quelque chose là-dedans que la personne finit par comprendre que tu n'es pas capable de servir le Seigneur sans que ça t'amène de la souffrance. Donc, une foi et un amour envers Jésus-Christ qui va t'augmenter. On va de mieux en mieux comprendre son œuvre de substitut, d'intercesseur, d'avocats, de médecins, de bergers, d'amis, toutes des facettes de Christ qu'on finit par découvrir de plus en plus. Donc, ça va être une sainteté de vie et de comportement qui va être augmentée. On va apprendre à dominer de plus en plus sur notre péché, de plus en plus sur le monde. On dit que n'aimez pas le monde et les choses sont dans le monde parce que c'est inimitié contre Dieu. Mais on va apprendre à dominer le monde, on va apprendre à dominer le diable aussi. Pas dominer le diable, mais je dirais être capable de résister à ses tentations. Et on va maîtriser de plus en plus notre tempérament, nos paroles et nos actions. Paul disait, « Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Normalement, il devrait y avoir, ça devrait s'accompagner, pour les marques, d'un goût pour les choses spirituelles qui est vraiment augmenté. Tout ce qui est de nature spirituelle, quand on augmente notre sanctification, on a une croissance, la croissance va aller dans... Et bien entendu, il va y avoir un amour qui va être augmenté. L'amour envers toi-même, mais souvent tu vas te respecter plus, envers ton épouse, envers tes enfants, envers ton entourage, tes collègues de travail et tout le monde en général. Il va y avoir une transformation de ta personne. Autre chose qu'il devrait y avoir, et ça je dis bien devrait, parce que ça n'existe pas comme ça devrait exister dans les églises, un zèle et un amour des âmes. L'évangélisation, les missions. On est tous dans la très, très grande abondance en Amérique du Nord. Souvent, il y a des missionnaires qui donnent leur vie à un degré qu'on n'a même pas idée. Je fais juste prendre Jackie Eno, parce que je la connais parmi tant d'autres. Là. Mais je sais qu'il y a plein de monde comme ça qui souffre pour le Seigneur, qui travaillent, qui ont une vie de sacrifice énorme pour le Seigneur. Alors, quelque part... notre vie d'évangélisation et notre soutien aux missions, soit par la prière ou soit par les dons financiers, devrait augmenter de plus en plus. Maintenant, les moyens, le troisième point, les moyens de la croissance spirituelle, bien entendu, c'est la diligence dans l'usage privé des moyens de grâce. C'est quoi les moyens de grâce? On les connaît. La prière privée, la prière individuelle, la prière en église, la prière en famille, la prière en couple, les lectures personnelles des Saintes Écritures, avec ce qui va, les autres devoirs qu'on a concernant les Écritures, les mémoriser, les méditer, les étudier, les mettre en pratique, la méditation et l'examen permanent de son âme. Alors, on vit à une époque caractérisée par la suractivité. On est tous hyperactifs. Ça déborde d'activité, mais souvent, on déborde d'activité, mais pas toujours dans les choses importantes. Les choses de Dieu, souvent, on va négliger les choses de Dieu pour favoriser des choses qui sont beaucoup moins importantes. Les distractions de la vie, pour nous, aujourd'hui, dans la vie moderne, sont énormes et sont nombreuses et puissantes. Alors, on se doit d'utiliser, donc, il y a des moyens privés, des moyens de grâce, il y a des moyens publics. On en est en train d'en utiliser un public. L'assistance à ses assemblées, l'assistance à ses soirées de prière. Si on comprenait, moi j'en suis tellement convaincu, la puissance de la prière, la portée de la prière, et ce que ça change vraiment. Il y a des soirs, on prend juste un exemple très très rapide. On a prié pour des nouveaux missionnaires. Nous, on ne sait pas si le Seigneur répond. Par la foi, je sais qu'il va répondre. Mais savez-vous qu'à cause qu'on a demandé ça ce soir, le Seigneur peut avoir appelé quelqu'un qui va aller dans les champs missionnaires et qui va faire un travail énorme et qui va changer des choses dans la vie d'une multitude de personnes ailleurs. Moi, je ne suis même pas au courant. Mais au ciel, le Seigneur va nous montrer la puissance de cet outil-là qu'il nous avait donné et dont on se sert malheureusement, pas assez. Donc, l'assistance à nos assemblées d'églises locales et particulièrement notre culte du dimanche, le repas du Seigneur, la participation à l'évangélisation et la participation aux activités de communion fraternelle. Quand l'Église locale nous donne une occasion de communier fraternellement entre frères et sœurs, on se devrait sauter dessus. Parce que ça nous amène quelque chose. Ça nous rapproche de nos frères, de nos sœurs, et ça nous rapproche du Seigneur. Autre chose, autre moyen de grâce, la vigilance dans notre conduite et ce que je pourrais appeler les petites affaires de la vie. Il n'y a pas un secteur de notre vie qui n'appartient pas au Seigneur. Mentionnez-les. Finances, sexualité, travail. Tous les secteurs de notre vie appartiennent au Seigneur. C'est à lui et on se devrait de tenir compte de tout ce qu'il est. Il nous a donné les directives pour tous les départements de notre vie dans les Écritures. On se devrait de les utiliser. La prudence dans le choix de nos amis, un autre moyen. C'est prouvé, et les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens, « Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dans une église, je peux vous garantir que si je sais à qui vous vous tenez, je peux savoir votre état spirituel. Parce que notre entourage, nos amis, finissent par nous influencer d'une manière beaucoup plus importante qu'on est porté à première vue. Et l'habituelle et régulière communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, je dirais que c'est peut-être une des choses qu'on a besoin, en ce 21e siècle, de se rapprocher de Dieu. La proximité avec le Seigneur, ça nous manque tous. Je suis sûr qu'il n'y a pas un ici qui ne peut pas se rapprocher plus du Seigneur. On peut tous se rapprocher du Seigneur, et ce n'est que lorsqu'on est près de lui qu'on est bien, qu'on est heureux. Alors, on peut le faire par la prière, on peut le faire par la lecture des Écritures, on peut le faire par la méditation, on peut le faire par lui accorder du temps. Une relation humaine, ça se bâtit avec quoi? Du temps. Parce que ça prend du temps à développer une relation. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Nous aussi, si on veut développer une relation avec lui qui est forte, il faut lui accorder du temps. Trois applications. Si nous ne voyons pas de croissance dans nos vies, réveillons-nous et vivons pour Dieu. Cherchons le Seigneur Jésus-Christ de tous nos cœurs, confessons nos péchés et entrons résolument sur le chemin de la sanctification. Deuxième application, si nous connaissons des progrès, mais qu'ils sont très lents et irréguliers, examinons-nous nous-mêmes et voyons honnêtement ce qui cause cette lenteur et cette irrégularité, et implorons du Seigneur les grâces de changer vigoureusement cette situation. Après l'avoir lu, je la reformulerai un petit peu. Je ne dirais pas « examinons-nous nous-mêmes », je dirais « demandons au Seigneur de nous examiner ». Ça va être pas mal plus efficace. Parce que des fois, on peut être indulgent avec nous-mêmes, tandis que le Seigneur, lui, voit au plus profond de toi. Alors, ne soyons jamais contents si nous ne voyons pas de croissance de grâce dans nos vies. Et troisième et dernière application, si vous connaissez une réelle croissance spirituelle dans vos vies, persévérez et croissez encore davantage. J'aime bien ce passage-là. Comme Moïse ne voyait pas sa face rayonnant après ses longues séances intimes avec le Seigneur, agissons comme lui. Un beau passage, Exode 34. Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, c'est quoi ça? La proximité avec le Seigneur. Il est proche, de lui. Lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les deux tables du témoignage étant dans la main de Moïse qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Alors, je pense qu'il y a une leçon ici qui nous apprend que plus on est proche de Dieu, plus on va rayonner et plus on va être un bon témoignage auprès de ceux qui nous voient vivre. Alors, mettons en pratique une devise sage, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus pour le Seigneur. Nous n'aurons jamais trop d'humilité, trop de foi en Christ, trop de sainteté, trop de spiritualité, trop d'amour, trop de zèle pour les autres. Visons la perfection. Gloire à Dieu pour son don ineffable, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.